Donc je vous remercie de m'avoir invité parce qu'en fait ça rafraîchit certaines choses puisque j'avais organisé en 2014 un colloque qui s'appelait les chemins politiques de la transition écologique et qui était de fait plutôt situé de côté de la critique intellectuelle que de côté des solutions. Je reviens un peu sur qui je suis, non pas pour tirer la couverture à moi, mais juste pour vous permettre de comprendre pourquoi je me posais ces questions-là. Donc je suis effectivement affiliée à l'UMR Environnement Vie de Société, qui est une UMR de géographes, mais je suis sociologue, on va dire, des mouvements sociaux et urbaniste. Je travaille depuis quelques années sur l'opposition aux grands projets inutiles à imposer en Europe, donc en fait des situations effectivement d'utopie concrète, mais avec une dimension contextuelle peut-être plus affirmée. Et j'ai fait ma thèse sur le lien entre écologie et spiritualité dans le contexte des médecines douces, ce qui va m'amener à ma première question. Alors comme je n'ai pas eu accès à votre présentation avant, je vais séparer les questions, mais rien ne vous empêche de répondre tous les deux en même temps aux questions. Donc je vais commencer par les questions adressées à Luc. La première porte sur l'émotivité, qui est un mot qui était comme surligné en rouge dans le texte que tu nous avais envoyé, donc, et qui en plus transparaît dans ta présentation quand tu parles de catastrophisme. Effectivement, il y a toute une dimension experte, contre-experte, rationnelle, scientifique, que je ne remets pas du tout en question, mais il y a aussi une dimension... je dirais pas irrationnel, parce que du coup, ça crée une dichotomie qui n'a pas lieu d'être, parce que en plus, elle est à connotation négative, mais néanmoins, en tout cas, une forme d'intuition dans ce catastrophisme, ou en tout cas, une volonté de savoir ce qui va se passer après, chose que moi, personnellement, je serais bien mal à l'aise d'évoquer. Donc, je voudrais vraiment qu'on interroge ensemble cette notion d'émotivité. Effectivement, elle renvoie, pour moi, à une certaine forme de subjectivité, ça, il n'y a pas de doute. Donc, même de rapport au corps, comment on se sent, soit en tant que sujet charnel et individuel, dans des pratiques de transition. On a beaucoup évoqué les mesures, mais finalement, voilà, qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne des corps, des êtres, du privé. Mais il y a aussi une dimension qui m'interpelle beaucoup et qui renvoie à la pensée positive, qui, quant à elle, en fait, appartient à toute une matrice... spirituelle ou religieuse, on ne va pas discuter sur les définitions, mais en tout cas une matrice qui est extrêmement identifiée du côté du New Age, avec la pensée positive envers et contre tout, quand bien même on annoncerait la fin du monde et l'assèchement des puits de pétrole. Donc voilà, qu'est-ce que... une toute petite parenthèse finalement sur la légitimité de Rob Hopkins. Effectivement, la permaculture est un mouvement ancien, ancré dans des pratiques qui en France, en fait, passerait beaucoup plus difficilement. Donc voilà, je voulais relier tout ça à ce personnage de Rob Hopkins, sa légitimité en tant que permaculteur ou permagriculteur, je ne sais pas comment on dit. Mais finalement, comment toute cette subjectivité individuelle et collective s'organise et quelle place, toi, tu lui donnes dans tes travaux? J'en suis à la question 1, donc je vais aller vite. Alors, quant à la monnaie locale, alors je suis ravie de vous entendre dire que finalement, c'est bien de se poser la question de l'efficacité. Moi-même, j'aurais pas osé la poser. Mais je me demandais si au fil des années, ça portait à une remise en question un peu plus radicale de ce qu'était la monnaie et l'argent, par exemple, en général. Mais c'est qu'un exemple. C'est vrai qu'on cite toujours la monnaie locale concernant les villes ou les régions en transition. Voilà. Jusqu'où on remet en question la marche du monde, jusqu'où la crise économique ou la crise des marchés, finalement... peut être une matrice de sens qui permet d'alimenter les débats des groupes locaux, jusqu'où la réflexion sur le puits pétrolier invite à une réflexion sur l'exploitation des ressources et des hommes, jusqu'à quel point finalement la transition est un cadre qui se répète ou se renouvelle en fonction des aléas de l'histoire et aussi des mises à l'agenda d'autres groupes. Alors vous avez été un peu dur avec les groupes écologistes, je trouve. Mais pour moi, ils sont à la fois lanceurs d'alerte et ils continuent à l'être, notamment sur des questions d'inégalité environnementale, de justice sociale et d'arguments croisés. Joseph, what about politics, parce que tu l'as mentionné toi-même, et aussi la narration. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est le cadre de la narration des scénarios. En fait, quels sont les supports de narration, comment on peut se procurer, à part le guide de la transition rééditée en 50 exemplaires et en 25 langues, comment on peut se procurer les fameux scénarios sur la fin du puits pétrolier, enfin sur le puits, voilà, sur ce type de... Et je ne sais pas pourquoi ça m'a amené à penser aussi sur le rapport à l'intergénérationnel. Alors, c'est vrai, c'est une question qu'on peut débattre pendant des années, mais ce que je trouve assez intéressant et comme forme d'évolution, ce qui fait que la transition n'est pas qu'un remplacement de la catégorie cognitive, développement durable. On dit, tiens, voilà, c'est le nouveau mot qu'on veut mettre à toutes les sauces, et ensuite il y aura résilience à partir de 2011. Mais il y a quand même un rapport à l'intergénérationnel qui est vraiment intéressant. Tu as parlé toi-même de contraction temporelle et du fait qu'on était finalement pris dans certaines irréversibilités. Est-ce que ça vient renouveler la réflexion philosophique sur l'intergénérationnel, sur ne surtout pas se préoccuper de la question de la justice sociale pour se préoccuper de la justice entre les générations? La comparaison, mais alors ça je reviendrai dessus aussi dans votre exposé, sur décroissance est plutôt colibri. Enfin, moi c'est vraiment, effectivement, dans ta tête tu l'as comparé à la décroissance, mais voilà, jusqu'à quel point ça peut être comparé à d'autres mouvements, mais vous en avez déjà fait mention. Ah oui, ensuite le cadre des politiques publiques, et je ne connais pas du tout l'Angleterre, parce que je travaille sur l'Italie, et c'est vraiment aux antipodes. En termes de politique publique et d'aménagement du territoire, mais j'ai l'impression que c'est quand même très flexible quand vous parlez de volonté l'un et l'autre, de volonté de projet territorial. Comment ça se confronte à la réalité des cadres, à la réalité ou à l'absence de l'efficience, de la concertation? Comment on fait une ville en transition quand le comté ou l'État a décidé de faire un train ou une autoroute à côté? Voilà, comment tout ça se gère, et finalement, je ne sais pas non plus, dans mon ignorance de l'Angleterre, s'il y a un programme de transition écologique, comme il peut y avoir l'Energiewende en Allemagne, la loi sur la transition écologique en France, mais comment ces gens se positionnent par rapport à ces politiques publiques globales qui viennent quand même recadrer, notamment, oui, effectivement, la dame mentionnait les projets de financement, mais aussi tout un ensemble de cadres très contraignants. En tout cas, pour qui veut vivre le territoire à sa façon. Il y a quelque chose aussi qui me fascine beaucoup dans ton exposé et dans ton travail, c'est le... Finalement, je me demande toujours, mais je caresse cette idée du bout des doigts, sur la remise en question du cadre traditionnel entre réforme et révolution, à travers une rhétorique où on a à la fois l'annonce d'un changement social imminent et complètement drastique, extrêmement radical, et à la fin la volonté absolue de ne pas être dans un changement révolutionnaire, mais plutôt dans une optique réformiste, avec 150 ans d'histoire du réformisme derrière, quoi. Donc finalement, est-ce que c'est ce nouveau cadre porté, enfin la dichotomie porte, comment se situe par rapport à ce cadre traditionnel qui serait révolution ou réforme, quand on pense que le changement radical arrive de l'extérieur, mais que finalement, il est quand même assez souhaitable. Bon, je continue à speeder, mais du coup, je passe aux questions qui vous sont adressées.
Oui, très bien, venant.
Rapidement. Alors, la première, c'est effectivement, si on a le temps, j'aimerais vraiment que vous nous en disiez plus sur... vous avez dit que la transition est loin. Effectivement, voilà. Poser les cadres un peu. Quels sont les rapprochements que vous faites entre l'action d'ONG, que moi je vois plutôt du côté de l'activisme, c'est drôle parce que Greenpeace, pour moi, mais peut-être que je me trompe, justement c'est l'ONG qui a créé la formule de l'activisme, et du coup avec un côté effectivement solution, mais aussi un côté social très radical. Donc d'où vient la transition à votre sens, et d'après votre expérience longue d'acteurs engagés dans le domaine de l'écologie politique? Ensuite, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on entend par international? Parce qu'on dit toujours international comme si en Corée du Sud et en Ouganda aussi, il y avait des pratiques de transition. Et là, je m'adresse surtout... Alors voilà, donc, quels sont les pays qui sont concernés? Parce que c'est des pays occidentaux, mais alors il y a deux sous-questions. Et là, je m'adresse aux sociologues, transitologues des pays de l'Est, en rappelant une anecdote... Cet été, il y avait la conférence sur la décroissance à Budapest. Donc, il y avait beaucoup de chercheurs des pays de l'ex-bloc soviétique qui, en fait, arrivaient à problématiser la question de la transition et de la décroissance en disant « Mais pour nous, c'est très difficile de parler de transition en dehors des cercles universitaires et en dehors, justement, de la petite bourgeoisie, parce que comment dire à des gens qui n'ont déjà pas accès à la consommation qu'il faudrait réduire la consommation, alors même que tout le modèle social est basé sur le désir, sur la désirabilité, vous l'avez dit vous-même, de la consommation. Et par contre, donc voilà, comment en fait dépasser ce paradoxe? Et par contre, là, je pense plus aux pays d'Europe du Sud, où je connais un peu des cercles de transitionneurs. Dans quelle mesure ça peut être une réponse à la pauvreté et à la précarité aussi? Dans quelle mesure des expériences dans des contextes non middle class anglais, où on peut attendre des gentilles subventions de l'État, dans des contextes où le service public est complètement anéanti, comment la transition peut justement être une réponse à, finalement, la pauvreté souvent assez extrême?